Je ne peux pas m'empêcher de penser, mais c'est sans doute encore un préjugé, qu'il est plus facile d'épouser la diversité, le pluriel et le temps quand on est une femme. Je veux dire, avec le côté femme de nous-mêmes. Plus facile de prendre ses distances avec l'un, la vérité, la raison, la pensée, l'universel. Plus facile de croire moins quand on est une femme. Nous avons été si longtemps privés de philosophie et de politique, depuis la Grèce jusqu'à la génération de ma mère qui, jeune, ne votait pas et n'avait pas de chéquier, c'est cela qui a changé. Barbara Cassin est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de deux livres, « Hommes, femmes, philosophie » et « Le dictionnaire des intraduisibles », mais je viens de lire la fin de son discours à l'Académie française la semaine dernière. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et pour Barbara, on va commencer par Akhenaton.
Case claire, case sombre, l'histoire du métèque et mat et du jeu d'échecs. Je suis un 100% métèque, importé d'un pays sec. Jadis vulgaire, pion, pas cette pièce maîtresse du jeu d'échecs. Et si l'obscurité de ces mots encombre, c'est Dieu qui l'a voulu, j'ai dû trop jouer sur des cases sombres. En fait, mon équipe se respecte, c'est tout. Pas de pion, pas de roi, pas de reine, que des fous. Tous partis sur un échiquier pourri. 20 ans plus tard, ils ont atterri sur du lapis-lazuli. Ils disaient ce sont des ramasseurs d'oranges. Des naïfs, mais pas un faisait de mat devant des calibres et des canifs. La volatilité est mon rôle, pas étonnant venant d'un napolitain d'origine espagnole. Les surnoms dont Jacob reflétait bien l'époque. Je suis l'un de ceux qui clairent nommés nègres de l'Europe et j'en suis fier. Peut-être sommes-nous trop coléreux, mais le respect est sacré, on n'appelle pas nos parents des vieux. Cousin, si tu changes de camp, mon pauvre, nous te rappellerons le temps où tu avais encore la morve. Elle te sera racontée comme une fable grecque, l'histoire des métèques et maths et du jeu d'échecs. Nous avons subi la loi des visages pâles, car Matt est le métèque pour 10 balles. Accomplit les tâches et les travaux les plus sales, car Matt est le métèque. Fasciné par le mirage des idéaux de modernité, nos peuples se sont acculturés, c'est pourquoi ma fierté demeure toute seule dans nos sacs de métèque et Matt. On dit que les jeunes ambitieux qui sont les seuls de ces quartiers gris à s'en être vraiment sortis. Peut-être est-ce vrai, mais je préfère évoquer le fait d'être heureux de ce que l'on est petit. On me racontait l'histoire de truands de boss qui pouvaient saigner 3 mètres, puis bouffer des pâtes en sauce Scarface. Le film est sorti, puis il a vrillé l'esprit de beaucoup de monde et moi y compris. Tu venais voir chez moi, on te disait intra, intra pana. Bienvenue chez Tony Montana. On nous a fait croire que l'on était des merdes et à force on l'a cru. Le stéréotype a pris le dessus, aucun héros à notre image. Que les truands, l'identification donne une armée de chacal puant. Donc le métèque est un pur produit génétique de réactions racistes et de pays pompes afriques. Méfiez-vous de l'eau qui dort ou vous dormirez dans l'eau. Inimitié sincère du plus cruel des Tsingaros. De nouvelles pièces arrivent, la défense éclate en échec par des métèques et maths. Et c'est foutu pour toi mon gars. Nous avons subi la loi des visages pâles, car maths est le métèque pour 10 balles. Accomplit les tâches et les travaux les plus sales, car Matt est le métèque. Fasciné par le mirage des idéaux de modernité, nos peuples se sont acculturés, c'est pourquoi la fierté demeure toute seule dans nos sacs de métèque et Matt. Fini le temps où les bas années étaient des esclaves, les pauvres larves sont sortis de leurs enclaves. Les uns ont engendré une génération d'ingénieurs, les autres des crapules attendant un monde meilleur. Mais les aspirations sont les mêmes, fonder un foyer, trouver une femme qui les aime sans problème. Mais l'oppression de la société est telle que riche ou pauvre il pèle et en garde des séquelles. Numéro 7 l'a condamné, pourtant ça t'y déroule. Être agressif de nos jours devient de plus en plus cool. Tu chahutes fort dans la masse, mais que feras-tu quand une équipe de fondue te tombera dessus? Les valeurs changent, les gens s'en foutent. Pourquoi faut-il que le respect s'enseigne avec les coups? Ou un de plus donné est une victoire. Mais j'opte pour nos profils bas à la manière de mon ami appelé Noir. Tu dis ne pas avoir de scrupules, tu mens. Et tu peux croire un des ex-prisonniers de l'aimant. Et si je retombe quand tu t'emploies à tes coups bas, il y aura toujours un métèque pour s'occuper de toi. Nous avons subi la loi des visages pâles, car Matt est le métèque pour 10 balles. Accomplit les tâches et les travaux les plus sales, car Matt est le métèque. fasciné par le mirage des idéaux de modernité. Nos peuples se sont acculturés, c'est pourquoi la fierté demeure toute seule dans le sac d'un métèque et mat.
Métèque, Barbara Cassin.
Métèque et mat. J'aime beaucoup Akhenaton. Pour moi, c'est Marseille. Et puis, c'est de la culture et des mots. Et voilà, il se trouve que, en fait, je l'ai rencontré parce qu'il avait dit quelque part, au moment où le dictionnaire des intraduisibles est sorti, je crois que c'était dans Elle, que c'était, on lui demandait quel était son livre préféré du moment et il avait dit ça. Et ça m'avait bouleversée. Voilà, donc j'ai voulu le rencontrer et j'aurais bien aimé travailler avec lui au Mucem, par exemple.
Au Mucem, vous avez fait une exposition qui parlait de votre passion depuis maintenant des décennies, c'est-à-dire la langue, les langues, l'entre-langue. Métèque, je repose ma question. Dans votre parcours familial, il y a du métissage, du métis, comme disaient les Grecs. Que veut dire ce mot de métis ?
Métis chez les Grecs, ça ne veut pas du tout dire métis chez nous. Métis chez les Grecs, ça veut dire une espèce d'intelligence inventive comme celle du poulpe ou celle d'Ulysse. Et on peut décomposer le mot pour rire, parce qu'il ne se décompose pas comme ça. Mais Ulysse s'en sert pour dire métis, pas quelqu'un. Donc voilà, l'intelligence du poulpe, c'est aussi le nom de pas quelqu'un, c'est-à-dire n'importe qui. Et ça, c'est assez beau. Vous parlez de ma famille, bah, on est probablement tous métis, hein, mais ma mère l'était. Si on, est-ce qu'on peut appeler ça métis, métis de hongrois et de
mélange,
voilà,
mélange,
on est des
mélange
mélangés.
Et impureté de l'origine.
Voilà, on est tous des mélangés, ça c'est sûr.
À quel moment avez-vous commencé à parler, Barbara Cassin ? Vous en souvenez-vous ?
Ma mère me disait ça, me disait que elle essayait de bon, j'étais, je sais pas quel âge j'avais, toute petite certainement. Elle me disait que l'un des premiers mots que j'avais prononcé, c'était quand elle essayait de fermer un tiroir et qu'elle n'y arrivait pas, et que je lui ai dit t'as pas dit merde. Voilà, elle me racontait ça. Ça fait partie de la saga métisse de la famille.
À quel âge avez-vous lu pour la première fois un texte de philosophie ?
Alors, ça je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûre de savoir faire la différence entre un texte de philosophie, un texte de poésie, un texte tout court. Donc, je pense que quand j'ai lu... Ma mère encore m'apprenait à lire et nous apprenait à lire, a appris à lire à mon frère pendant la guerre, par exemple, et puis à moi après la guerre, dans un livre de poèmes. Et ça, je m'en souviens très bien, et je me souviens des premiers poèmes. Donc je peux pas dire que pour moi c'est aussi bien un texte de philosophie. C'était trois vers de Victor Hugo, c'était « Viens, j'ai des fruits d'orge et des roses, j'en remplirai tes petits bras ». Je te dirai de douces choses et peut-être tu souriras. Je ne sais pas de quoi est ce texte. C'est un texte de poésie, mais c'est bien un texte de philosophie aussi, après tout.
Mais la poésie et la philosophie sont alliées, et ce depuis l'origine.
Oui, depuis en tout cas Homère, Parménide, et Homère, Hésiode, Parménide, en tout cas chez les Grecs, c'est sûr.
À quel âge êtes-vous pour la première fois tombée amoureuse, Barbara ?
Oh, je devais être toute petite, je pense. J'ai des souvenirs, en tout cas, d'amoureux. Quand j'étais, je sais pas, quand j'étais dans les toutes petites classes, avant de rentrer en collège, j'ai souvenirs, je crois, mais je me souviens de leurs prénoms et je me souviens des cadeaux qu'ils me faisaient. Je me souviens d'un Guy, dont le père était photographe. Et j'ai une photo que le père de Guy avait prise, je l'ai encore. Je me souviens d'un Edmond, dont la mère, qui était vietnamien, je crois, et dont la mère était mannequin chez Dior et qui était une beauté absolue. Bon, et je me souviens d'un Gérard qui m'avait donné un caméléon. Ça, c'était un cadeau sublissime. Voilà, donc j'ai dû tomber amoureuse de tous ces gens-là.
Eh bien, moi, je vous propose d'en écouter un autre. Il s'appelait René. Vous allez l'entendre, il va lire un de ses poèmes.
Qu'ils vivent. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts lointains. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie.
Nous venons d'entendre la voix de René Char qui lisait son poème « Qu'ils vivent ». C'est une archive de 1965. Et voilà, l'amour de la philosophie, l'amour de la poésie vous ont conduite à rencontrer et René Char et Martin Heidegger. C'était un été brûlant dans tous les sens du terme. Et il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre de l'amour.
Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ?
Oui. C'est magnifique de pouvoir tout d'un coup essayer de comprendre ce qu'écrit un des plus grands poètes français et les échanges qu'il avait avec un des plus grands philosophes aujourd'hui, et d'ailleurs vous en parlez dans ce dernier ouvrage qui paraît ces jours-ci, dans votre dialogue avec Alain Badiou, avec ce grand philosophe Martin Heidegger. On sait maintenant, depuis la publication des Cahiers Noirs, qu'il s'est commis de manière absolument atroce et tout à fait certaine pendant la période du nazisme. Mais à l'époque, peu de gens le savaient, et vous ne le saviez pas.
Si, on le savait un peu. Si, on le savait un peu. Et je crois que, pour moi, le fait qu'il ait été reçu chez René Char, donc par le capitaine Alexandre, le nom de guerre de Char, le nom de résistance de Char, faisait que il fallait re-réfléchir à la chose. Non pas effacer le fait qu'il ait été nazi, Heidegger, mais plutôt repenser le rapport entre la poésie et la philosophie. Et Arendt, Anna Arendt, que je n'ai pas rencontrée, mais que j'ai traduite, et disait pour les 80 ans de Heidegger, et de toute façon elle l'a dit plusieurs fois, elle disait moi je ne fais pas de philosophie politique, depuis Platon jusqu'à Heidegger, ça n'est plus possible. Ça, elle le disait dans ses entretiens avec Günter Gauss. Et puis elle disait les philosophes ont une déformation professionnelle, c'est l'amour des tyrans. Voilà. Et donc, elle attribuait ça, elle qui aimait Heidegger, qui avait été très amoureuse de Heidegger, elle attribuait ça à la déformation professionnelle de la philosophie. Et il y a certainement une déformation professionnel de la philosophie. Je ne sais pas si je dirais que c'est le rapport à la tyrannie ou, au fascisme. Enfin bon, je ne dirais pas ça comme ça, certainement pas. Mais il y a en tout cas, pour moi, un rapport à l'un, à l'universel, à la maîtrise qui me répugne un peu. Auquel je répugne un peu.
Vous continuez à lire Heidegger ?
Oui, tout à fait. Beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je ne pouvais pas partir travailler quoi que ce soit en vacances. Par exemple, en Corse, j'emmenais tout Heidegger. Maintenant, ça ne m'arrive plus.
La philosophie est-elle l'amour et le désir de s'approcher le plus de la vérité, selon vous, Barbara Cassin ?
En tout cas, elle a à voir avec la vérité depuis le début. Oui, c'est l'amour de la sagesse, si on prend l'étymologie, ou la sagesse de l'amour si on joue un peu avec Socrate, puisque de temps en temps il joue là-dessus. Mais en tout cas, oui, le philosophe est quand même à partie lié à la vérité. Et c'est pour ça. Alors, est-ce qu'on met un grand V? Est-ce qu'on met un V majuscule? Est-ce qu'on peut supporter d'avoir ça avec un S? Est-ce qu'il y en a plusieurs, etc. Bon, là, moi, je suis à la fois perplexe et, oui, vraiment pas assurée de moi-même. C'est pour ça que je ne dis pas facilement ou pas seulement que je suis philosophe.
Peut-on s'approcher ou étreindre la vérité, selon vous?
Je ne sais pas ce qu'on peut étreindre. Donc la vérité, pas plus que le reste.
Vous avez manifestement, à l'âge de 14 ans, Barbara, été amoureuse de la philosophie. Et tout d'un coup, c'est devenu une passion. Et ensuite, vous avez essayé d'en faire votre métier. Ça n'a pas été si facile. Combien de fois vous avez passé l'agrégation?
J'ai un peu oublié, mais beaucoup. D'abord parce que il y avait 68-69. Je ne sais plus, je l'ai boycotté au moins deux fois. Et là, c'était assez beau. Ça voulait vraiment dire quelque chose. Et je me souviens de Dina Dreyfus, qui était inspectrice générale, inspecteur général à l'époque, et qui voulait nous faire composer, qui disait « mais enfin, les enfants, faites-le ». Enfin bon, elle venait dans les salles d'examen, de concours, et on criait « crève salope ». Et elle disait « oh, je ne mérite pas cela », avec son accent magnifique. Elle disait « mais c'est pas vous, c'est l'agrégation, madame ». Bon, donc en effet, il y a quelque chose dans l'agrégation d'assez sournois, qui d'abord, ne serait-ce que parce que c'est un concours qui normalement est un concours de recrutement du secondaire, et c'est très bien qu'il y ait des concours de recrutement du secondaire et qu'ils soient difficiles. C'est très bien que les professeurs du secondaire soient très bien formés, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient très bien formés par le concours, ou au concours, ça c'est encore autre chose, pas très bien formés à enseigner. À partir de là. Mais c'est surtout que l'agrégation, si vous n'aviez pas l'agrégation, vous ne pouviez rien faire. Donc, moi, je n'avais pas l'agrégation, mais j'ai eu le CAPES du premier coup. Le CAPES, c'est un. Pour l'enseignement secondaire. Donc, on est moins payé, on fait plus d'heures, on vous envoie plus loin, etc. Et bon, tout ça est assez peu sympathique, on va dire. Et je me souviens que quand je préparais l'agrégation, enfin quand je la présentais après 69, 70, 71, etc., j'ai arrêté de la présenter très tard, puisque je me souviens que la dernière fois que je l'ai présentée, j'avais mon fils, mon premier fils, qui est né en 80, je lui donnais à téter. Donc j'avais entendu, je l'entendais crier dans les couloirs parce qu'il avait faim, mon mari l'amenait. Et donc, le lait s'est mis à couler sur ma copie, c'était quelque chose d'absolument effarant. Donc je suis sortie, j'ai donné à téter, et quand je suis revenue, ben, j'ai rendu ma copie pleine de lait et je suis partie. Et le directeur de salle, je ne sais pas comment ça s'appelait, enfin l'inspecteur général qui tenait la salle m'a dit « Madame, vous devez être très fatiguée, il faudra revenir l'année prochaine ». Et ça m'a libérée. Je me suis dit « bon voilà, plus jamais ».
Aujourd'hui, vous avez les plus hautes distinctions, vous avez obtenu il y a quelques années la médaille d'or du CNRS, vous avez été intronisée la semaine dernière comme académicienne, vous êtes reconnue dans le monde entier, vous avez été présidente pendant de nombreuses années du Collège international de philosophie, vous avez exercé un mandat absolument fantastique, vous œuvrez pour les autres, et en même temps, vous êtes entièrement et totalement reconnue. Cependant, j'ai l'impression que dans votre parcours, quand il y a eu toutes ces embûches, quand il y a eu tous ces accidents, quand il y a eu toutes ces difficultés, ça vous a amené ailleurs. Et on parlait de l'hubris, on parlait du métisme, cette manière de ne pas prendre le droit chemin qui peut vous amener beaucoup plus loin que le droit chemin. Et vous avez, puisque vous avez raté l'agrégation, vous avez travaillé avec des enfants psychotiques. Oui. Et je me demande si ce n'est pas là l'origine de votre passion pour la non-univocité des langues.
En tout cas, ça m'a immensément appris. J'ai travaillé en effet comme pédagogue d'adolescents psychotiques et je n'étais pas, enfin je n'ai jamais fait d'analyse, je n'ai jamais, j'ai travaillé avec des analystes puisqu'il y en avait dans des hôpitaux de jour, mais disons que j'étais seulement pédagogue, c'est-à-dire que j'essayais d'enseigner ce que je pouvais à des enfants qui étaient en grande difficulté langagière. Et là, il s'est passé des choses extraordinaires pour moi. C'est-à-dire que j'ai compris, ou j'ai cru comprendre en tout cas, pourquoi c'était difficile de parler, et pourquoi c'était extraordinaire de parler, et pourquoi ça n'allait pas de soi d'avoir une langue maternelle. Maternelle, parce que ces enfants, bon, en gros, ils parlaient français, sauf qu'ils ne parlaient pas. Et je me souviens que le premier éclair d'intuition, je veux dire, la première intuition que j'ai eue avec eux, quand j'ai essayé de faire bouger les choses, et que je les voyais si embarrassés avec la langue, c'était de leur faire comprendre qu'ils avaient une langue maternelle. Et que, bon, il y avait peut-être beaucoup de problèmes avec leur mère, avec leurs parents, etc., mais qu'il y avait quelque chose là qui était à eux, plus qu'ils ne le croyaient. Et donc je me suis mise à écrire du grec au tableau. Et là, ils ont vu ce que c'était que quelque chose qu'ils ne comprenaient vraiment pas, qui n'était pas du tout à eux. Et ils ont compris qu'il y avait quand même quelque chose qui était plus à eux que cela. Et donc, eh bien, je leur ai un tout petit peu appris l'alphabet grec, comme je pouvais. Et puis, on a lu ensemble des bouts du Cratyle de Platon. Et le Cratyle de Platon, c'est un dialogue absolument fou sur les noms, sur les mots, où il s'agit d'étymologie, où il y a des étymologies complètement folles et concurrentielles qui sont données. On se demande si le nom est juste ou pas juste, et est-ce qu'il est juste naturellement ou est-ce qu'il est juste par convention. Donc c'est un dialogue vraiment sur la justesse des noms. Et donc j'ai lu quelques phrases avec eux et j'ai lu des bouts d'intervention de Socrate et de Cratyle, où ils font des étymologies absolument contradictoires. Bon, alors, je prends toujours cet exemple parce que aletheia, qui veut dire la vérité, on peut l'étymologiser comme quelque chose de l'ordre de la course rapide, divine, etc. Ou alors, on peut l'étymologiser aussi, mais tout aussi faux, hein, comme quelque chose de l'ordre de l'arrêt, de la lenteur, de la pondération, etc. Et donc, je raconte ça parce que ça m'a marqué vraiment de manière définitive. Il y a un enfant qui a levé le doigt et qui a dit « Madame, j'ai compris ». Je dis « Mais t'as compris quoi ?»« Ah, j'ai compris l'étymologie de concierge ». Voilà, donc il a coupé le mot comme il fallait pour lui. Et c'était tellement bien de le voir jouer avec les mots qui donc était interprété par lui, à sa manière, avec sa folie, mais qui lui appartenait.
Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser des mots pour pouvoir exprimer sa propre pensée ? Je ne parle pas de la peinture ni de la musique, mais je parle de tout ce qui a à faire à la compréhension de l'autre, avec un grand A, selon vous, Barbara Cassin.
Enlevez le grand A et je vais commencer à pouvoir répondre, parce que le grand A, je ne sais pas. Mais sans grand A, oui, bien sûr, on a besoin de parler et de se parler, et on se parle aussi à soi-même. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, par exemple, quand j'écris même de la philosophie, aussi rébarbative soit-elle, eh bien, il se passe quelque chose que je n'attends pas. Pas tout à fait. Et ça ne se passe que parce que je parle. Que parce que je mets des mots les uns à la suite des autres, et leur manière d'être mis à la suite les uns des autres m'étonne, et donc me provoque, et donc m'oblige à aller un petit peu ailleurs, un petit peu plus loin, un petit peu autrement. Et ça, c'est ce que je trouve passionnant. Mais vous disiez tout à l'heure, on ne parle pas de peinture, mais moi ça m'arrive pour tout. Pour tout c'est comme ça. C'est-à-dire que, bon, il se trouve que je peins aussi parce que ma mère peignait, parce que mon père peignait, parce que je les ai vus faire et que j'ai aimé ça, qui m'ont fait aimer mettre des couleurs, assembler des couleurs sur une toile. Bon, et donc des couleurs, pas des formes. Je suis pas très capable de dessiner, mais en revanche, bon, j'aime mettre des couleurs les unes à côté des autres et qu'il en surgisse des formes. Eh bien, justement, il surgit des choses que je n'attends pas. Et ces choses que je n'attends pas, bien que j'essaye de faire des choses ressemblantes avec tous les guillemets que vous voudrez, j'essaye de faire d'une certaine manière ce que je vois. Eh bien, justement, quand c'est sur la toile, je vois autrement. Et je suis ce que je ne voyais pas et que tout d'un coup, je vois par hasard, par fortune, par chance. Je vois quelque chose d'autre et de plus. Et c'est pareil quand j'écris. C'est exactement pareil.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Barbara Cassin et là, Anne Louise.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done.
You say either, I say either, you say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off. Oh, let's call the whole thing off, yeah.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling of off. Let's call the whole thing off.
Yes, you say either,
and you say either.
You say neither,
and you say neither.
Either,
either,
and either,
and neither.
Let's call the whole thing off. Oh, yes. You like potato,
and you like potato.
You like tomato,
and you like tomato.
Potato,
potato,
tomato,
tomato.
Let's call the whole thing off.
But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart.
Oh, so if you like pajamas,
I like pajamas.
I'll wear pajamas.
You got pajamas.
But we
know we need each other, so we better call the calling of all. Let's call the whole thing off.
Let's call it.
conscient est le discours de l'autre, est ma formule. Il est structuré comme un langage, ce qui est pléonasme, nécessité pour me faire entendre, puisque langage est la structure. L'inconscient n'est pas pulsation obscure du prétendu instinct, ni cœur de l'être, mais seulement son habitat. Non seulement le langage est un milieu aussi réel que le monde dit extérieur, mais il faut être aussi crétinisé qu'on l'est par les imaginations où se sont constituées jusqu'ici la théorie de la connaissance et les prétendues méthodes concrètes de l'éducation pour éluder ce fait massif. Mais justement, il ne devient un fait qu'une fois supporté d'une condition scientifique, que l'homme croit, fait sa croissance, autant immergé dans un bain de langage que dans le milieu dit naturel. Ce bain de langage le détermine avant même qu'il soit né.
Nous venons d'entendre la voix de Jacques Lacan au cours d'un de séminaires, ces séminaires les plus fameux, où il vient de dire que l'inconscient est structuré comme un langage et que nous, les êtres humains, nous sommes encore plus déterminés par le bain de langage dans lequel nous nous trouvons que par nos origines sociales ou par le territoire géographique où nous sommes nés. Comment faut-il comprendre cette assertion et y croyez-vous encore aujourd'hui, Barbara Cassin ?
Elle a un rapport aux politiques qui est assez compliqué. Et j'y suis plus sensible aujourd'hui que quand j'ai entendu Lacan. C'est-à-dire que je... Disons que le rapport aux politiques me manque. Je pense que c'est vrai, l'inconscient est structuré comme un langage, ça n'est ni le cœur de l'être ou le bain de l'être, ni non plus un instinct... Je pense que c'est l'une des choses les plus intelligentes qu'on peut dire sur l'inconscient. Et l'une des choses qui nous permet de l'approcher le mieux. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, et il faut vraiment le dire, et je le dis avec un immense respect et un immense plaisir, parce que ça guide beaucoup de mes travaux sur les langues. Par exemple, ça guide en partie... moi, j'ai une phrase de Lacan qui me reste en tête, qui est une phrase de L'Étourdi, où il dit « Une langue entre autres, c'est-à-dire parmi toutes les autres langues, il parle de la langue de l'inconscient, mais moi, je l'entends de toutes les langues, une langue entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. » Je trouve que cette phrase est extraordinaire et extraordinairement juste. C'est-à-dire que si j'essaye de faire la différence entre le français, l'anglais et le russe, par exemple, eh bien, je vais être conduite à réfléchir aux équivoques singulières de chacune de ces langues. Et c'est ça que j'ai appelé, au fond, intraduisible. C'est-à-dire, ça ne passe pas d'une langue à l'autre. Bien entendu, on traduit tout. Bien entendu, on va dissiper les équivoques à chaque exemple, à chaque item, hein, à chaque phrase.
Et aucune langue n'est univoque. Chaque langue, il y a de l'équivoque.
En chaque langue, il y a de l'équivoque. Et vous parliez tout à l'heure de poésie, c'est là où on rejoint vraiment la poésie. La poésie travaille évidemment sur les équivoques. C'est Ponge qui disait qu'il faudrait une phrase où chaque mot serait pris dans chacun des sens qu'il peut avoir. Et ça serait le comble du plaisir pour un métaphysicien et pour la cuisinière aussi. Bon, je trouve ça extraordinaire. Et c'est vrai. C'est-à-dire que, à mes yeux, entendre chaque mot dans tous ses sens, même en ne lui en donnant qu'un, dans une linéarité, si vous voulez, de phrases. Mais entendre tous les sens qui sont derrière, et pourquoi, et comprendre pourquoi, et comprendre comment, ça, c'est vraiment parler. Et c'est vraiment parler une langue.
Alors, qu'est-ce que parler veut dire, selon vous, Barbara Cassin ? Parler, ça veut dire utiliser les mots de la langue maternelle, entre guillemets, ou celle qu'on doit parler, ou ça veut dire essayer d'inventer une autre langue à chaque fois qu'on s'exprime?
Parler, ça veut dire, si ça veut dire quelque chose, ça veut dire faire du bruit avec sa bouche, hein. Et que ce bruit puisse avoir du sens pour ceux qui sont là et puis même pour vous-même. Après, que ça ait le même sens, c'est encore une autre question. Et que ça ait un seul sens, c'est encore une autre question. Mais moi, je suis quand même aristotélicienne au départ, c'est-à-dire que la définition de l'homme comme animal doué de logos, logos voulant dire à la fois, enfin, traduit en latin par ratio, raison, et oratio et discours, bon, ça nous mène très loin. Et la phrase qui suit dans la politique d'Aristote, c'est parce que l'homme est un animal plus politique que les autres. C'est pour ça qu'il est doué de logos. Donc c'est magnifique, c'est formidable de comprendre que parler, c'est aussi interparler. C'est-à-dire, évidemment, parler à quelqu'un, parler de quelque chose et parler pour faire quelque chose. Alors, parler pour parler, Aristote n'aime pas beaucoup ça. Moi, oui. Voilà.
C'est pour ça que vous vous revendiquez sophiste. Ça veut dire quoi être sophiste aujourd'hui, en 2019?
Ah, en 2019, je sais pas trop, mais enfin, on a entendu Lacan. Lacan disait que le psychanalyste, c'est le sophiste de notre époque avec un autre statut. Alors, bon, l'une des ressemblances les plus claires et les plus extérieures, mais pas si extérieures que ça, c'est qu'un sophiste, comme un psychanalyste, se fait payer. Et que, donc, il y a un rapport.
Bon. Donc, vous coûtez très cher quand vous donnez vos cours.
Voilà, j'aimerais bien. Non, mais je suis ni psychanalyste, ni sophiste.
Petit peu sophiste.
Oui, mais enfin, comme ça n'existe plus
et
aujourd'hui.
Et vous lisez beaucoup de psychanalystes pour comprendre les langues et ce que parler veut dire.
Oui, tout ça est vrai. Ça ne veut pas dire que... Je crois que je ne me suis jamais fait vraiment payer, ni comme un sophiste, ni comme un psychanalyste. Mais bon, ça viendra peut-être. Mais le problème n'est pas vraiment là. Simplement, ça veut dire un autre rapport à la vérité. Le fait d'être engagé dans un tiers qu'est le paiement, c'est un autre rapport à la vérité.
Vous parlez des langues. Vous dites que parler pour parler, c'est pas ce qu'Aristote aime. C'est ce que nous n'aimons pas d'ailleurs tous en général. Nous sommes tous aristotéliciens. Mais en même temps, si une langue n'est pas parlée, elle disparaît. Et on le sait qu'encore aujourd'hui, au moment même où nous parlons, il y a une langue qui est sans doute en train de disparaître. À quoi tient la vitalité d'une langue, selon vous?
Au fait qu'il y ait des gens pour la parler, des gens pour l'entendre, pour la comprendre, et qu'on puisse faire des œuvres avec, pas forcément des œuvres écrites, mais qu'il y ait des œuvres. C'est des auteurs et des œuvres, une langue.
Donc ça passe par l'écrit?
Non, une œuvre n'est pas nécessairement écrite. Elle peut être transcrite plus tard. On ne peut pas dire que Homère est écrit, ni même qu'il ait existé. Homère, c'est peut-être beaucoup de locuteurs qui se sont passés le témoin de poèmes. Bon, c'est beaucoup d'aèdes. Et puis, à un certain moment, ça s'est plus ou moins fixé. Et on a appelé ça Homère.
Et on ne sait pas s'il a existé.
On pense qu'il n'a pas vraiment existé. Enfin, en tout cas, s'il a existé, il y en a eu plus d'un. Il est né dans un tas d'endroits, il est mort dans un tas d'endroits, etc. Bon, donc ça, c'est plutôt jouissif d'avoir ce genre de locuteur, ce genre d'auteur.
Peut-on se forger une langue à soi tout en étant compréhensible des autres, selon vous?
Ça s'appelle un idiome, une langue à soi, idios, propre. Alors ça veut dire qu'on est à la fois... Ça a donné idiot quand même, hein. Donc c'est une langue propre à soi, mais si elle reste simplement propre à vous, vous êtes idiot. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui passe. Si vous suivez strictement l'alternative, enfin que vous, la bifurcation que vous proposez, bon, est-ce qu'on peut avoir une langue rien qu'à soi et que cette langue soit comprise? Vous dites que non quand vous posez la phrase comme ça. Donc, votre langue rien qu'à vous, elle ne sera pas rien qu'à vous, elle sera à vous et, parce qu'il y aura des bouts pour y rentrer. Et vous allez donner des même dans votre folie, vous allez donner des moyens d'y passer ou d'y arriver. Donc voilà, il n'y a pas de langue idiote.
Et la langue, c'est une absolue nécessité pour être avec les autres et dans le monde. On ne peut pas s'en passer.
Parler. Parler, oui. Oui.
Alors parlons.
Si, on peut être muet.
Et avoir des possibilités de communiquer son rapport au monde par d'autres moyens.
Oui. Oui. Et des possibilités aussi de comprendre comment ça se passe pour quelqu'un d'autre.
Et peut-être avec plus d'intensité que pour celles et ceux qui sont censés pouvoir parler.
Eh bien, les intensités ne se placeront pas aux mêmes endroits.
Et ça, oui, c'est des domaines de la connaissance qui sont encore assez peu explorés.
De la connaissance, de la perception, du cœur, enfin oui. Enfin, du thumos, je veux dire, de l'affect.
On vous sent, Barbara Cassin, à l'intérieur d'un des deux ouvrages qui paraît en ce moment même intitulé « Homme-femme-philosophie », ce dialogue avec Alain Badiou très revigorant. On vous sent toujours sur l'arête même de votre pratique à la fois de philologie, de philosophie et de métaphysique. On vous sent, en tout cas, c'est ce qu'on a, on a l'impression que vous ne voulez pas vous dire philosophe, comme s'il y avait un sentiment d'illégitimité par rapport à ce terme même de philosophe. C'est parce que dans l'histoire de la philosophie, il y a eu très peu de femmes que vous continuez à ne pas, enfin, à vouloir être modeste.
J'aimerais bien continuer à vouloir être modeste, mais c'est pas tout à fait ça qui m'anime là, dans ce livre avec Alain Badiou. C'est plutôt que il est en position de philosophe, lui, et il l'a toujours été, et il a toujours affirmé qu'il l'était. Et donc, moi, j'essaye de voir si je suis philosophe, mais là, je mets des guillemets, de la même manière. Et j'essaye de voir pourquoi non, comment non. Du coup, ça m'éloigne de la philosophie si c'est lui qui l'incarne.
Et donc, vous vous dites quoi ?
Alors,
philosophe quand même ?
Non, mais je dis, alors là, c'est des artifices peut-être d'écriture, mais je me dis philosophe, point d'interrogation, je fais de la philosophie, point d'interrogation, ou je fais de la philosophie et. Et évidemment, il me dit que lui aussi fait de la philosophie et, puisque lui aussi peut écrire des poèmes ou des pièces de théâtre. Mais c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Moi, je brouille un peu les cartes. Et je ne crois pas à. Je crois à la porosité des genres. Voilà. Donc, je pense que poésie, philosophie,
peinture.
Oui, peinture. Sont facilement intriqués et même contagieux les uns par rapport aux autres. Donc, poreux. Comme je crois qu'on a un côté homme de nous-mêmes, un côté femme de nous-mêmes, etc. Je pense que là, il y a évidemment de la porosité dans tout ça.
Vous êtes une intellectuelle engagée, vous aimez beaucoup lire le grec, le traduire, faire des dictionnaires, le dictionnaire des intraduisibles, là, sort ces jours-ci, et c'est une véritable mine pour comprendre des impensés de l'histoire de la pensée occidentale. Mais vous êtes aussi quelqu'un de pratique. Pouvez-vous nous parler des maisons de la sagesse ?
Ah oui, les maisons de la sagesse. Ça s'appelle maisons de la sagesse traduire. C'est véritablement né du rapport à la traduction que je définis comme un savoir-faire avec les différences. Et nous avons fondé une association très modeste, en commençant par un financement participatif très minuscule. Et on essaye à grand mal, on est à peu près quatre à faire marcher la machine, on essaye de trouver des moyens un peu plus pérennes. L'idée, c'est que on ne peut pas laisser, enfin moi en tout cas, ce qui m'a guidée, c'est peut-être cette phrase d'Anna Arendt qui dit « Personne ne veut savoir que nous sommes dans une époque où on a enfermé, où des gens ont été enfermés dans des camps de concentration par leurs ennemis et dans des camps d'internement par leurs amis. » Bon, et on applique ça véritablement, ça s'applique à ce qui arrive aujourd'hui. Je veux dire que quand par hasard les migrants se noient pas, où sont-ils? Bon, ils ont été à Calais, Calais a été démantelé, etc. Donc on ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. Donc c'est d'abord un sentiment d'indignation absolue et de honte à l'égard de mes enfants, par exemple. On ne peut pas laisser faire ça. Bon. Or, on le laisse faire, et moi la première, donc comment faire? Comment faire pour ne pas le laisser faire alors qu'on est impuissant? Et au fond, les maisons de la sagesse traduire sont nées de cette question-là. Alors c'est un dispositif de lieu et d'action qui... bon, il n'y a pas de maison, ça n'a pas de portée de fenêtre pour l'instant, il y en aura peut-être. Mais pour l'instant, on réfléchit à comment accueillir. Alors au moment de l'accueil, proprement dit, on voit que ceux qui arrivent remplissent des papiers, et c'est normal, et c'est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne comprenne pas comme, à quel point c'est difficile. C'est-à-dire que quand on demande nom, prénom, mais ça ne va pas de soi du tout. Quand on demande date de naissance, ça ne va pas de soi du tout. Et j'ai travaillé beaucoup à Marseille, beaucoup à Aubervilliers. À Aubervilliers, par exemple, avec les gens qui accueillent, tout d'un coup, je crois qu'ils ont compris, parce qu'on travaillait avec eux et avec un certain nombre de Maliens qui étaient là, que, ben oui, date de naissance, bien sûr, ils sont nés. C'est pour ça qu'il y en a tellement qui sont nés le 31 décembre ou le 1er janvier. Ben oui, parce que date de naissance, ça se dit même pas en soninké, on dit né vert. Et puis ensuite, on la connaît pas cette date. Et puis on va pas la dire si on la connaît, parce que c'est une certaine manière de donner du pouvoir. Donc chaque chose est une complication, est une. Il y a trop de choses qui tombent entre les mots. Les cultures sont entre les mots. Et c'est ces cultures qu'on essaye de saisir en faisant des glossaires de la bureaucratie française, qui ne sont pas du tout contre les bureaucrates, qui sont au contraire pour eux, pour les aider à comprendre pourquoi c'est difficile. Et qui sont aussi pour ceux qui arrivent, pour les aider à comprendre et à faire face aux difficultés. Date de naissance, nom, prénom. Non, ça ne va pas de soi. Et vous êtes marié, paxé? Ah bon? À qui demandez-vous ça, vraiment? À une femme syrienne? Bon. Donc, vous voyez, tout ça, il faut le travailler. Donc, on essaye de travailler ça. Ensuite, on a un autre dispositif, on essaye de mettre sur pied un autre dispositif qu'on est en train de faire avec, par exemple, le Crédit Municipal, qui est un dispositif qui est importé de ce que Daniel Wozny, par exemple, avec qui je travaille, avait fait ou avait favorisé en Afrique, au Mali, au Togo, sont des banques musées. Des banques culturelles. Changer l'idée de banque, changer l'idée de musée. Donc, il y a un financement, un microcrédit, qui est donné en échange d'un objet. Mais pas un objet tout court, un objet et un récit. Un récit d'objet, une biographie d'objet, qui est en même temps la biographie de celui qui la porte. Et cet ensemble-là, eh bien, on voudrait le valoriser, montrer qu'un objet qui n'a a priori pas de valeur marchande a une valeur. Et une valeur pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc une espèce de coupe de la France aujourd'hui, puisqu'on est en France. Donc qu'est-ce que ce serait une banque culturelle ici?
Eh bien voilà des projets absolument passionnants. Barbara Cassin, je ne sais pas... Comment sont vos nuits? Combien d'heures vous dormez par nuit? Sans doute pas beaucoup. Je voudrais citer à la fin de cette émission un court paragraphe de ce livre que vous venez de publier. Hannah Arendt disait « Si je ne peux pas étudier la philosophie à l'adolescence, elle disait ça, je suis pour ainsi dire perdue. Moi, je n'aurais pas été perdue si je n'en avais pas fait. J'aurais le plus naturellement du monde fait du théâtre, j'aurais été actrice, anthropologue, romancière, peintre, femme au foyer et cocotte. » Eh ben, vous êtes tous là à la fois. Merci infiniment, Barbara Cassin, madame l'académicienne, c'est comme ça qu'on dit?
Je crois.
Bah, ça vous va bien au teint, c'est un petit lifting parce que vous arrivez dans une assemblée où vous êtes la plus jeune. Et je rappelle que vous publiez en ce moment même deux livres, Homme-femme, philosophie, un dialogue avec Alain Badiou, dans la collection que vous dirigez chez Fayard, et le dictionnaire des intraduisibles. Merci infiniment Barbara, et comme chaque soir, nous allons nous quitter en musique, et ça sera avec Aloïse Sauvage.
Jimmy est solitaire, Jimmy s'affaire à s'affirmer pas à pas, même si tout ça est harassant parfois. Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait. C'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague, pensant déjà à la belle bague qui en aurait le droit de sa future femme. Jimmy tape le terrain, Jimmy sent bien comme c'est terriblement grisant de s'attacher ainsi. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que, mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui Jimmy veut. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que, mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui Jimmy veut. Jimmy a aimé, mais y a une raison de se taire. Si tout le monde s'y met, comment Jimmy peut faire ce qui lui plaît? Jimmy a aimé, mais y a une raison de se taire. Si tout le monde s'y met, comment Jimmy peut faire ce qui lui plaît? Jimmy est aveugle d'amour, Jimmy a court dès qu'il y a accro. Peut cogner fort quand quelqu'un s'approche, trop près de celle pour qui Jimmy s'accroche. Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper, en s'oubliant, se laisser vivre. Jimmy a réussi son coup, dans la rue à son bras a dulciné. Et Jimmy projette déjà beaucoup, ses plans sur la comète, un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois, sa première femme. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les observe passer. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que, mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que, mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que, mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que, mais arrêtez de dire que
merci à Philippe Duclos qui était à la technique ce soir. Merci à Anne-Sophie Dazar, Elodie Royer et Alexia Lacour. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Comme chaque lundi soir, vous allez vivre après le prochain journal d'information la première aventure de notre ami Mishka, Very Good Trip 1. Vous écoutez France Inter.